Père, nous te prions pour ta parole, afin qu'elle nourrisse notre âme et qu'elle nous aide à discerner tes plans, ta volonté pour nos vies, et qu'elle puisse nourrir, Seigneur, nourrir notre esprit, et que vraiment tu sois présent par ton esprit, Seigneur. Souffle ce matin dans nos cœurs et dans nos pensées, te prions au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais vous lire un passage, le passage de Jean 4, en partie de la Samaritaine. On va lire du verset 7 au verset 15. Donc Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurait demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, mais tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau du puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On dit Amen. Vous voulez de cette eau? Vous voulez puiser à ce puits? Amen. Amen. Comme je le disais dimanche dernier, le projet pastoral cette année, c'est bâtissons le royaume de Dieu avec, encore une fois, bâtissons le royaume de Dieu avec l'eau vive. Voilà. Vous l'entendrez beaucoup parce que c'est toute l'année que nous allons étudier ça. Hein. Vous croyez qu'il y a assez de semaines pour tout ça? Non. Non. Donc, vous voyez, ce sera pas trop long. Et beaucoup de pasteurs qui passeront vont prêcher là-dessus dans les multiples facettes de cette réalité de la parole où Jésus dit, si tu savais qui je suis, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. Et vous, très souvent, nous sommes pris par ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, eh bien, nous cache une réalité visible qui est derrière. C'est malheureusement le cas de nos concitoyens qui ont privilégié la raison à la foi. Ou plus subtilement, qui ont mélangé la raison et la foi. Et c'est encore plus subtil que souvent simplement de le remplacer. Parce qu'on a l'impression qu'on a la foi aussi, vous voyez. Et cette femme samaritaine aussi, vous savez, la samaritaine, la particularité de Samarie. C'était quoi la particularité? Pourquoi est-ce que les samaritains ne parlait pas aux juifs et vice versa? Pourquoi les juifs ne parlaient pas aux samaritains? Voyez où est la Samarie, au fait? Tout le monde? Bon, j'ai pas de carte, mais bon, je vais peut-être utiliser ça. Je suis pas un grand géographe, hein, donc, bon, là, c'est la mer. Là, c'est Israël. Là, c'est le Jourdain, etc. Voilà. En gros, c'est ça. Où est la Samarie? Pardon? Hello? Pardon? Sur la droite du Jourdain, ici, là? C'est ça? Oui? Donc, il y en a un qui dit à droite du Jourdain, d'autres? C'est où la Samarie? Hello? Quand vous lisez vos Bibles, là, vous imaginez? En plein sud. Au sud de la Judée. Et où est la Judée alors? Pardon? Bon, Jérusalem est là, hein, ok? Voilà. En gros, c'est là. D'accord? C'est l'ancien Israël. Hein, en gros. Hein. Donc la Samarie, en fait, c'est l'héritage du royaume du Nord. Là, c'était le sud, la Judée, et le Nord. Hein. Quand est-ce que Israël s'est divisé? À quelle époque? Parce qu'à un moment donné, David, au temps de David, c'était un seul royaume. Voilà, la mort de Salomon, donc vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Le fils de David, Salomon, à sa mort, il y a eu une scission entre le nord et le sud. Donc la Samarie, donc au départ, ça s'appelait Israël, ils ont été déportés. Et quand les Juifs sont revenus de Babylone, temps de l'exil, il y a eu la création de la Samarie, qui théoriquement est Israël. Quelle est la particularité de Samarie ou des Samaritains? Pourquoi ils ne parlaient pas aux Juifs? Et pourquoi les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains? Vous êtes déjà posé la question? Pardon? C'est pas tout à fait ça, mais tu es sur la piste. Voilà, déjà ils avaient leur propre lieu de culte, hein, qui n'était pas. Et en particulier, c'était la montagne, là. Hein, dont parle la Samaritaine, sur laquelle ils adoraient. Mais est-ce qu'il y a une autre particularité très importante? Oui, en gros, hein, faut, on ne va pas passer en revue tout ce qu'ils n'ont pas fait, mais en gros. Bien, Julie, 20 sur 20, c'est le mot qu'il fallait prononcer, le syncrétisme. Il y en a qui savent ce qu'est le syncrétisme? Le mélange. Hein. Ils mélangeaient. Hein. La Samarie, les Samaritains, dans le syncrétisme, c'est un mot barbare, hein, mais pour le simplifier, vous mettez mélange. Mélange de quoi? C'est un mélange de quoi? De croyances bibliques, la Bible, plus des croyances païennes. D'accord? Voilà. Et je vous rassure, aujourd'hui, ça n'a pas changé. La plupart des chrétiens font des syncrétismes, y compris en France. Beaucoup de pasteurs qui sont un peu choqués quand ils vont dans les îles, que ce soit Martinique ou ailleurs, disent, ah, les chrétiens ils vont aussi voir dans la semaine les marabouts, machin comme ça, etc. Ah, c'est du syncrétisme. On mélange, vous voyez, on reste pas pur dans sa foi. Et les Samaritains, ils faisaient ça. C'était un héritage d'Israël, hein. C'était un héritage aussi de Babylone quand ils sont revenus, etc., etc., etc. Il se trouve que les Judéens, ceux du Judée, autour de Jérusalem, eux, ils faisaient aussi des syncrétismes. Hein. faut pas croire. Mais ils pensaient qu'ils étaient plus importants, ils étaient plus purs. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient Jérusalem. Voyez-vous comme quoi la loi parfois peut nous. Ils étaient plus orgueilleux. Hein, la preuve, c'est que c'est eux qui ont tué Jésus. Hein. Donc, je vous raconte pas de bêtises. C'est les chefs de Jérusalem. Hein. C'est à Jérusalem qu'il a été crucifié. Mais là, il y avait beaucoup de pharisiens, de sadducéens, des gardiens du temple, tout ça. Voilà. Donc, ils pensaient avoir la légitimité, l'autorité de gardien de la parole aussi. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais en fait, ils parlaient pas du tout aux Samaritains. Parce qu'ils ont dit, ah non, ça c'est des gens, il faut pas les fréquenter. Ils disaient à leurs enfants, etc., enfin tout ce que vous pouvez imaginer pour pas les fréquenter, tout ça. Et donc cette Samaritaine était étonnée que Jésus lui parle. Ça ne se faisait pas, on tournait le regard de l'autre côté. Hein. Moi je connais des chrétiens évangéliques qui, quand ils voient des catholiques, même des pasteurs, ils changent de trottoir, vous voyez. Je veux dire, waouh. Quand on pense être pur, ça va loin, hein, on va pas se mélanger. C'est très souvent là que on fait du syncrétisme dans son cœur, quoi. Parce que la pureté n'est pas dans l'apparence. Amen. La pureté est dans le cœur. Est-ce que moi je peux voir la pureté dans le cœur? Non. Il n'y a que Jésus. Donc nous avons tous nos syncrétismes et nous avons tous besoin de nous repentir d'un manque de pureté de la foi. Amen. Il n'y a que Jésus. Que Jésus qui est pur. Voilà. Donc, Une petite digression pour vous rappeler que là, alors je sais pas exactement l'endroit du puits, hein, je ne peux pas me hasarder à vous dire des bêtises, mais admettons que quelque part ici, donc il y avait le puits de Jacob, hein, qui a été ouvert par Jacob. Jacob, il est venu par le Yobek, ici, alors peut-être qu'il était là. C'est par là que Jacob est revenu pour l'héritage qu'il attendait. Donc il y avait là le puits, et Jésus rencontre cette femme, et une conversation toute banale s'engage, et Jésus la fait réfléchir. Je vous invite, quand vous évangélisez quelqu'un, à pas balancer à la tête tout ce que vous savez, la Bible, à la personne. Mais posez des questions. Faites-les réfléchir. Interrogez-les et regardez ce qui sort. Vous voyez, c'est ce que je fais un peu avec vous, ça me permet de rester un peu sur des choses qui méritent votre attention, si je vois que c'est pas bien assimilé. Mais Jésus faisait tout le temps comme ça, il posait des questions. Et en fonction de la question, il répondait, il allait plus loin avec la personne. Et avec cette femme, donc, il lui pose la question de l'eau. La question de l'eau, c'est la question de cette année pastorale, l'eau. Dernière fois, on a vu qu'il y a quatre représentations symboliques de l'eau. On les rappelle? Si vous les avez... Pardon? Alors, la mort, on commence par le côté paradoxal de l'eau. Non, mais c'est bien. Le côté paradoxal de l'eau, effectivement, on n'y pense pas, mais l'eau représente la mort pour quel événement particulier? Pardon? Pour le baptême. Pour le baptême. Et pourquoi pour le baptême? Voilà, c'est l'histoire du déluge, hein, qui nous est rappelée dans Pierre, hein, que le déluge était une préfiguration du baptême, est une figure du baptême. La meilleure figure qui existe est le déluge. Pensez à Noé, où Dieu n'avait, enfin, il s'est repenti après qu'il ne referait plus, mais en tout cas, il a balayé sur toute la surface de la terre tout le péché qui existait grâce à l'eau, qui est l'eau de la mort, qui ensevelit les péchés. Et Jésus est venu pour nos péchés. Donc la signification de l'eau du baptême, c'est vraiment ce qui nous rappelle que nos péchés ont été portés par Jésus et définitivement sont noyés. On ne peut plus revenir à nos péchés si nous les avons confessés. Et c'est ça la grande puissance de la croix. Voyez-vous, les psychologues, moi j'ai beaucoup de respect pour les psychologues, ma fille est psychologue, mais il y a quelque chose qui leur manque. Psychologue, c'est quoi? La foi, oui. Qu'est-ce qui leur manque aux psychologues? Parce que c'est souvent une très bonne analyse, hein, de la personne. Vous écoutez parfois la radio, moi j'écoute beaucoup la radio, et de temps en temps je tombe sur des émissions où les psychologues répondent à des gens. Oui, mais encore. Voilà, Isabelle. C'est la dimension de la culpabilité qui n'est pas réglée. Parce qu'ils n'ont pas de solution, de la culpabilité. Ils peuvent vous dire, vous faites ça, ok, vous donnez des bons conseils et tout ça. Vous pouvez à la limite bien vous remettre avec vos parents, enfin les gens qui sont fâchés, ils donnent des bons conseils, quoi. Mais ils peuvent jamais résoudre le problème de la culpabilité. Jamais. Écoutez bien, moi j'écoute bien les émissions. La seule solution de la culpabilité, c'est la croix. C'est la seule. Dans le monde, on a des solutions à donner, mais jamais la culpabilité. Ce qui fait que vous pouvez être libéré d'une certaine manière, mais la culpabilité, vous ne pouvez pas l'enlever. Parce que seul le sang de Jésus peut nous enlever la culpabilité. Allô? Réellement. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Il a réglé cette question-là, et nous ne sommes plus coupables. Et Paul, dans son magnifique chapitre 14, va dire, il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est le mot de la fin, la différence entre psychologue et la parole de Dieu. La culpabilité. Hein, tu te sens plus coupable, Solange. Voilà. Pourtant, tu as fait des péchés, tu as fait des choses qui n'étaient pas bien et tout ça. Tu te sens plus coupable. Amen. C'est ça, la puissance de la croix. Le lavement des péchés, voilà, de la conscience. Exactement. La conscience. Dans notre conscience, il n'y a plus la notion de culpabilité. Donc on est libre. Amen. C'est ça, pardon. Vraiment libre. Elle a dit vraiment libre, et c'est vrai. C'est que c'est une question qui est réglée, voyez-vous. Et là, on peut partir d'un nouveau pied. on peut devenir une nouvelle personne. On peut regarder les choses en arrière sans que ça nous fasse peur, parce qu'en fait, on est libéré du péché. Et on peut dire à Satan, tu vois ce qui est derrière ? Terminé. Et Satan va toujours vous ramener à regarder en arrière, toujours. C'est son petit truc là, tu vois. Oui, mais tu as fait ceci, tu as fait cela, etc. Il y en a même parfois des gens de votre entourage qui vous rappellent votre passé. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont. On le redit ? Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et là, Jésus dit à cette Samaritaine, mais tu te rends compte, si tu savais qui tu avais en face de toi, c'est pas toi qui aurais, c'est pas moi qui t'aurais de l'eau, c'est toi qui m'aurais demandé, parce que je t'aurais donné de l'eau vive. Au départ, déjà, il lui donne la réponse. Elle comprend pas, parce qu'elle dit, attends, c'est quoi ça, l'eau vive? Il y a un puits de Jacob, là, tu as même pas de seau, t'as rien, où c'est que tu cherches cette eau vive? Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, l'eau vive, pour les Juifs? Parce qu'elle était pas choquée, hein. Elle n'a pas dit, mais c'est quoi l'eau vive, qu'est-ce que tu racontes? Non, paf, elle enchaîne. Vous n'êtes pas posé la question, pourquoi elle enchaîne sans poser la question? Ça veut dire que c'était quelque chose qui était utilisé à l'époque, par les rabbins. Et c'est quoi la signification de l'eau vive pour les Juifs? Même aujourd'hui, hein. Même aujourd'hui. Pardon? La traversée de la mer, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Les Juifs, les rabbins, ils utilisent le symbole. Ils sont beaucoup plus symboliques, les Juifs, que nous. Le symbole de l'eau vive. Qui est-ce qui arrive à discerner? Rassurez-vous, je le savais pas non plus. J'ai dû le regarder dans un commentaire biblique. Je suis pas meilleur que vous. Mais bon, c'est intéressant de le savoir. Parce que ça vous comprend pourquoi la Samaritaine n'a pas, à ce niveau-là, elle s'est pas arrêtée. Après, autre chose qui s'est passé. Oui. Mais l'eau vive, quand Jésus l'utilise, elle avait entendu les rabbins le dire. Et c'était quoi l'eau vive? C'est la Torah. La Torah. C'est quoi la Torah? C'est le Pentateuque, c'est les Écritures. Les Écritures des cinq premiers livres qui sont dans la Bible, c'est la Torah. Et la Torah, pour eux, c'est la base. Après, il y a les prophètes, il y a les écrits poétiques, etc. Mais l'écriture de la Torah, c'est le fondement de la foi. Okay, donc, pour eux, l'eau vive, c'est la Torah. Les rabbins. Donc, oui, j'ai déjà entendu parler de l'eau vive chez les rabbins. Hein. Donc, elle n'était pas choquée, mais elle dit, mais je vois pas le rapport, là. Hein. Tu as pas de seau, etc. Oui. Pour Jésus, l'eau vive, est-ce que c'est la Torah? Pour la Samaritaine, c'est la Torah, l'écriture. Pour Jésus, il réutilise l'eau vive. Je t'aurais donné de l'eau vive. C'est quoi, pour Jésus, la signification? Et c'est toute la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pardon? Non? C'est le symbole jaune, là. C'est quoi le symbole jaune, là? C'est quoi le symbole jaune? Jésus, il... Non. Jésus, il baptise de l'Esprit. Dites-le tous, Jésus baptise de l'Esprit. Allô? Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Amen. Et voilà la toute différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus amène le Saint-Esprit. C'est pour ça quand Paul il va voir une église, il va dire, vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Il dit, quoi? Quoi? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit, c'est quoi ça? C'est une nouvelle doctrine? Et Paul dit, mais non, vous n'avez pas entendu parler. Voyez-vous, le Saint-Esprit est au cœur du Nouveau Testament. C'est la nouvelle alliance. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance grâce au Saint-Esprit. Jésus, quand il est parti de la terre, l'ascension, on va y arriver, quand il est revenu après, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Il a dit, attendez ici. Je vous ai donné une mission, mais la faites pas tout de suite. Attendez ici jusqu'à ce que, quoi? vous recevrez le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est le départ de l'Église. L'origine de l'Église, c'est la réception du Saint-Esprit. Quand Pierre commence à parler, quand il, c'est parce qu'il a reçu l'Esprit. Et il s'est regarde là aussi, un petit souci. Des problèmes techniques. C'est pas ici? C'est pas ici, non? Donc on ne sait pas où c'est. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Donc le Saint-Esprit, il y avait besoin de la réception du Saint-Esprit pour démarrer la Nouvelle Alliance, pour démarrer l'Église. Alléluia. Donc, c'est pour ça que c'est bien de nous rappeler l'importance du Saint-Esprit, qui est l'eau vive. Rappelez-vous cela toute l'année. Rappelez-vous qu'on va parler de l'importance du Saint-Esprit au travers de l'eau vive. Amen. Alors là aussi, il y a des syncrétismes qui sont entretenus par des mauvaises théologies. Les catholiques, que j'aime beaucoup, j'ai des amis catholiques, mais leur théologie, j'aime pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que il y a un problème très important, d'ailleurs vous entendrez quand il y a des conférences entre les professeurs de la fac de Vaud, tout de suite ils annoncent la couleur, entre la grosse différence entre les catholiques et les protestants. Les catholiques, ils disent que c'est les hommes qui ont écrit les Écritures. Donc c'est l'Église. Or l'Église aujourd'hui, il y a le pape qui est infaillible, donc quand il dit quelque chose, ben c'est les Écritures. Donc les Écritures, ils se poursuivent, vous voyez, ce qui est dit aujourd'hui est vrai, ce qui est décrit dans l'Ancien Testament, etc. Les protestants, depuis la Réforme, ils disent non, c'est Dieu qui a écrit. Alors c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Il y a un œuf, est-ce que c'est la poule avant ou c'est l'œuf après? Bon, qu'est-ce qui départage? Les Écritures. Alors prenez voir 2 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 2. Et non, premier verset 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous ? Donc l'origine, c'est le Saint-Esprit, y compris dans l'Ancien Testament. C'est l'Esprit. Le Saint-Esprit qui inspire les hommes pour écrire. Et c'est pas les hommes qui écrivent poussés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, il y a une toute petite nuance. Il y en a qui disent que c'est les hommes qui sont inspirés qui écrivent, et d'autres qui disent que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes. À partir de cette différence, vous avez deux théologies différentes. Fantastique. Vous voyez comme quoi il faut toujours retourner à la source des problèmes, des erreurs. Parce que après, si vous voulez débattre d'erreurs, vous en sortez plus. Mais allez à la source. Ça, c'est une source. La source. Oui, bien sûr, l'interprétation est totalement différente. Nous croyons que l'origine de toute chose, c'est Dieu. Au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous allez dans la Genèse, vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui planait au-dessus des eaux, et qui, par sa puissance, par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, a fait que les choses se sont créées au travers de la parole. La parole, le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a toujours le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois personnes, mais il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a pas les hommes. Les hommes, on n'en parle pas, ils ont été créés après. Comment voulez-vous que des hommes écrivent, même s'ils sont inspirés, c'est le Saint-Esprit. L'origine, c'est bien le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est assez facile à démontrer comme argumentation, mais quand même, tout un pan de l'Église est tombé dans ce piège. Pour revenir à la Samaritaine, Jésus dit, cette eau vive, donc c'est l'eau de la source de vie, cette eau véhicule le principe de vie, de purification, ça c'est au niveau de l'ancienne alliance, les rabbins disaient que l'eau vive, la Torah, eh bien, vous donne la vie. Et Jésus dit, c'est le Saint-Esprit qui vous donne la vie. Il va vous inspirer, il va vous donner des révélations, il va vous donner des chants nouveaux. la louange parce que ça vient du cœur, il remplit votre cœur. Et c'est pour ça qu'il faut chérir le Saint-Esprit en vous. Et il ne faut pas le blesser. Voyez-vous ? Il ne faut pas le blesser. Parce que s'il est blessé, il va se retirer. C'est un gentleman. Dieu ne s'impose jamais. Si vous péchez et vous restez dans le péché, à un moment donné, le Saint-Esprit se retirera. Pas tout de suite, mais se retirera. Il dit, ok, tu veux plus de moi, je me retire. C'est pour ça que la crainte de Dieu, c'est très important d'avoir la crainte de Dieu pour respecter la personne du Saint-Esprit. Vous dites amen? Le Saint-Esprit est ce don de Dieu, cette eau vive. Ésaïe 12, 3, je ne le prends pas, mais vous pouvez le lire. Et Jérémie 2, 13, ce sont des choses importantes concernant l'interprétation que Jésus donne au Saint-Esprit, qui est l'eau vive. Jésus dit, autrement, tu m'aurais demandé la vie, et je t'aurais donné le Saint-Esprit qui apporte la vie. Voyez-vous, si vous voulez traduire l'interprétation de Jésus à la Samaritaine, il dit, si tu avais su, tu m'aurais demandé la vie et je t'aurais donné le Saint-Esprit, voyez-vous, l'eau vive. Donc demandons le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en tant qu'Église Four Square, bien, nous voulons vraiment recevoir le Saint-Esprit, demander le Saint-Esprit, respecter le Saint-Esprit, exercer les dons sous le ministère du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est la vie pour l'éternité. Mais il faut le respecter parce que on ne manipule pas le Saint-Esprit. On est soumis au Saint-Esprit. Amen. Bâtir le royaume de Dieu avec l'eau vive, avec le Saint-Esprit. Les trois autres symboles, on a parlé de la mort, sont quoi? Quand vous lisez l'eau vive dans l'Écriture, l'eau, quels sont les autres symbolismes? Pardon? La vie éternelle, hein, puisque là, Jésus dit, je t'aurais donné la vie en abondance, la vie qui dure, puisque vient du Saint-Esprit, il est éternel. Un autre symbolisme de l'eau, la purification, tout à fait. Ça a toujours été utilisé sous forme de purification, en particulier dans la loi. Et le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de purification. Et le baptême de Jésus, c'est un baptême de... Pardon ? Oui, de salut, de transformation. L'un, c'est la purification des péchés, l'autre, c'est Jésus nous transforme. Quand on passe par les eaux du baptême, on est supposé être transformé et commencer ce processus de transformation. Amen. Pour nous identifier à Jésus. Donc, le baptême de Jésus, c'est pour ça que Paul rebaptisait ceux qui étaient baptisés par le baptême de Jean, parce que dans le baptême de Jésus, on baptise au nom de Jésus. Dans le baptême de Jean, on baptise selon les rites de la purification de l'Ancien Testament. Donc, c'est deux baptêmes différents. Et Jésus, bien sûr, a été baptisé aussi par le Saint-Esprit, rappelez-vous, quand le ciel s'est ouvert au moment de son baptême. Dernier symbolisme important de l'eau vive, c'est quel autre... On a toujours du mal à le trouver, celui-là, pourtant, il est évident. C'est par tes meurtrissures que guérison. L'eau de la guérison. Et ce symbolisme, on le retrouve essentiellement où? Ceux qui ont bien écouté dimanche dernier. Voilà. C'est dans Apocalypse. Le fleuve d'eau de la vie qui coule du trône de Dieu et qui apporte la guérison des nations. Vous voyez, ce fleuve d'eau de la vie, c'est le fleuve de la purification. Il nous guérit constamment. Nous avons besoin de la guérison. Qui a besoin de la guérison? Alléluia. Eh bien, recevons la guérison au travers de l'eau vive. C'est dans Lévitique 19:7 que vous trouvez le baptême de la purification. Dans Jean qu'on vient de lire, la vie éternelle. Et la guérison dans Zacharie, chapitre 14, verset 8, et dans Apocalypse, chapitre 22, 1 et 2. Nous allons, je le redis, pour vous préparer, parce que souvent il y a des personnes qui disent « Ah, je savais pas qu'on ferait ça dans l'église ». Donc vous le savez suffisamment tôt qu'en septembre, je peux vous donner les dates, on va commencer un processus qui s'appelle le torrent qui purifie. En anglais, Cleansing Stream Ministry, le torrent qui purifie. Ce processus que nous allons suivre au travers de Nathalie Gendron, qui est servante de ce ministère, et probablement Elsa, qui en tout cas le suit actuellement, avec Nathalie, viendront ici pendant 2 mois. C'est un processus qui va nous mener dans la libération de choses encore qui nous retiennent. Et tous nous avons besoin de passer par ce torrent, et de repasser par ce torrent. Même nous, en tant que pasteurs, Michel et moi, nous serons heureux de passer par ce torrent. Donc j'espère que vous aimerez passer par ce torrent. Donc si vous êtes là, vous pourrez passer par ce torrent qui purifie. Le torrent qui purifie. Ça veut dire que, quoi, c'est pas concernant notre salut. Hein. Il y en a qui sont baptisés ici par immersion, qui sont vraiment, ont cette expérience. Bon, ça c'est une fois pour toutes. Okay. On revient pas là-dessus. Mais le torrent qui purifie, on a besoin toute notre vie, parce qu'il y a des choses qui nous encombrent, comme on dirait des valises. Vous avez déjà porté des valises lourdes, là hein on a rencontré des amis aux États-Unis qui sont venus ici, ils avaient des valises tellement lourdes que Samuel et Cathy les ont reçues. Ils ne pouvaient même pas les porter, parce qu'ils faisaient du théâtre, je ne sais pas quoi, des trucs. C'est énorme, énorme. Quand vous avez des valises lourdes, c'est fou. Hein. Et vous voyez, souvent nous, dans notre vie, nous avons des valises qui sont lourdes comme ça. Ok? Et forcément, on peut pas avancer dans la vie chrétienne si on a des valises à porter comme ça. Donc le Seigneur veut nous enlever ces valises pour que nous puissions courir vers lui tout libre. Amen. C'est ça, Cleanse Extreme. Il veut nous aider à nous débarrasser des valises du passé. Il y en a qui ont encore des valises qui veulent se débarrasser. Eh bien, venez dans ce courant qui purifie et vous serez libre. Parce que Jésus a dit, je vous donne la liberté et vous aurez la liberté en abondance, pleinement, dans la vérité. Amen. Une vraie liberté. Pas la liberté, la statue de la liberté là, que la France a offert aux Américains. Ils sont pas plus libres pour autant. Hein. Nous non plus. On a une petite. Ils ont une grande. Ils devraient être libres. Hein. Et c'est là-bas que se fait tout le trafic d'argent et tout ça. Vous voyez, donc, c'est la liberté humaine a des limites. Mais la liberté en Dieu, elle est parfaite. Amen. Recherchons cette liberté. Et donc, le torrent qui purifie, ce sera dans notre projet pastoral un moment important que nous allons vivre. Dans 3 Jean, chapitre 1er, oui, il n'y a pas beaucoup de chapitres d'ailleurs. Dans 3 Jean 1. Versets 1 et 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. C'est beau, hein? C'est une bonne introduction à son épître. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Nous voulons que notre âme puisse prospérer. Pas simplement notre esprit, notre âme. Notre âme, c'est notre partie avec laquelle nous vivons tous les jours, avec laquelle nous avons des rapports humains les uns les autres, avec lesquels nous regardons la télévision, avec lesquels, vous voyez, c'est notre âme, notre intelligence, nos pensées, etc. Et il faut que ce soit en bonne santé. Parce que si nous ne sommes pas en bonne santé, eh bien nous souffrons sur le plan spirituel après. Il faut que nous demandions pardon, il faut faire un tas de choses pour nous rétablir. Donc, avoir une bonne santé dans notre âme, c'est très important. Et donc, cette idée aussi se trouve dans Osée, chapitre 14, verset 9, dans un dialogue entre l'âme et Dieu. Osée, chapitre 14. Alors, c'est un tout petit prophète, hein, Osée. Qui a dit des choses remarquables. Donc au chapitre 14 de Osée, verset 9, je lis, « Éphraïm. » C'est qui Éphraïm? Pardon? Non. Pas fils de Jacob. Hello? C'est fils de Joseph. C'est Joseph qui est fils de Jacob. Les petits-fils. Éphraïm et Manassé. Et Éphraïm, ça veut dire quoi? Je vous l'ai dit l'autre jour, hein, en hébreu. Ça veut dire? Ça veut dire quoi, Éphraïm? Allez, apprenez l'hébreu, là. Moi, je le connais pas. Éphraïm, porter du fruit. Vous voulez porter du fruit? Vous voulez être un Éphraïm? Alors, si vous dites, je veux être un Éphraïm, je veux porter du fruit, c'est ça que ça veut dire. Voyez-vous? C'est beau d'avoir des noms comme ça. Maintenant, on a des noms, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un mot inventé, ça veut rien dire. Mais Ephraim, c'est beau, c'est beau. André, ça veut dire être un homme, c'est bien. C'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'est ma mère. Ephraim, je plaisante, hein. Ephraim, porter du fruit. Donc, il s'adresse à Ephraim. Ephraim, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Voyez-vous, principe de l'idole, c'est l'ennemi numéro un de notre vie spirituelle, c'est les idoles. C'est l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro un de notre vie personnelle, l'ennemi numéro un de l'Église, l'ennemi numéro un de Dieu, c'est les idoles. Amen. Dieu ne veut pas qu'on ait affaire avec des idoles. Et Pierre et Jacques et Jean diront, détachez-vous des idoles. Ephraim, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai. Je le suivrai des yeux. Je serai comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que vient ton fruit. Que celui qui est sage ait de l'intelligence de ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les criminels y trébucheront. C'est qui le « je l'exaucerai »? Je regarderai. C'est « je serai pour lui un cyprès ». C'est qui? C'est Dieu. Donc vous avez un dialogue entre l'âme et Dieu. Et le Seigneur veut que, eh bien, ce soit lui, de lui que nous recevrons le fruit. Ce n'est pas de moi. Vous pouvez faire tous les efforts dans votre vie humaine pour être mieux, pour être bien, et les psychologues essaieront de vous aider là-dedans, mais comptez sur le Seigneur. Et les fruits seront des fruits paisibles de justice. Vous ne serez pas stressé à porter du fruit. Hein, vous avez déjà vu des arbres qui sont stressés de porter des pommes et de stresser de... Non, ils sont pas malades comme nous, être stressés, hein, aller au boulot, rencontrer un chef désagréable. Non, les arbres, ils portent du fruit naturellement, parce qu'ils ont été faits comme ça pour Dieu. Alors soyons naturels. Et John Wimber avait cette expression, soyez naturellement surnaturel. Ça, j'aime ça. Naturellement surnaturel. Ne vous forcez pas. Il dit pourquoi dans l'église, alors c'est pas le cas ici, hein, parce que je tolérerais pas ça, dans l'église, il y en a qui disent, ouais, Seigneur, il parle comme ça. Il dit, mais, quand vous êtes à table, Jérôme, par exemple, quand tu es à table, tu dis à ton fils, passe-moi le sel. Tu parles comme ça? Passe-moi le sel. Non, tu es naturel. Passe-moi le sel. Bon, il est peut-être pas encore à l'âge de te le passer, c'est toi qui lui passes. Soyez naturellement surnaturel. Amen. Des chrétiens qui sont surnaturels, c'est l'ange qui fait la bête. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Moi, j'y crois pas. Michel non plus. Allô? Soyons naturels, parce que nous n'avons pas besoin de nous prétendre à quelque chose. Nous sommes ou nous ne sommes pas. Allô? Si nous sommes en Christ, eh bien le fruit viendra de lui. Amen. Il viendra pas de nous. Si ça vient de nous, il est surfait et il tiendra pas. Donc, ne cherchons pas à avoir des fruits naturels, mais cherchons à avoir des fruits de la part du Saint-Esprit. Ça vous rappelle le psaume 1? Quoi le psaume 1? Pardon? Voilà. Un arbre verdoyant qui a les racines dans les eaux profondes et qui porte du fruit. Amen. Et qui réussit dans ses entreprises. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Voyez-vous, au temps de Jésus, qui était rebelle? Les plus rebelles des rebelles, c'était qui? C'était les religieux. C'était les chefs religieux. Ils n'avaient pas l'air comme ça, hein. Parce qu'ils priaient, ben, c'est la première fois que j'ai vu ça à Montréal. J'étais choqué, j'ai vu des juifs qui étaient là, avec les tresses, tout ça, je croyais en Israël. Je dis, c'est quoi ça? Oui, j'étais choqué, j'avais jamais vu ça. Oui, mais, vous voyez, c'est, je me montre aux autres, et ils le faisaient dans les rues, hein, c'était pas chez eux, c'était dans toutes les rues, là où il y avait des juifs. On était en plus dans un quartier juif. Et on les voyait tous et tout ça. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que Jérôme, t'as besoin de sortir sur la place de l'Agora et puis prier, que tout le monde te voit? Je te dirais, non, allez, rentre chez toi, là. Non. Prie, va dans ta chambre, ferme ta chambre et prie. Amen. Mais les chefs religieux, ceux qui veulent se montrer, ils veulent vous impressionner. Ils veulent vous montrer qu'ils sont spirituels. Donc ne soyons pas comme ça. Si on est vraiment spirituel, eh bien, ça se verra aux fruits. Et quels fruits ? Les fruits paisibles de justice, des fruits d'amour, des fruits conciliants, des fruits que Jésus a portés. Amen. C'est les fruits de Jésus qui nous transmet sa nature. Amen. La réforme protestante a établi 5 sola. Sola en latin veut dire seul. 5 principes de la réforme. Vous les connaissez? Les 5 principes. Sola gratia. Sola fide. Sola scriptura. Sola Dei. Sola Christus. La foi seule, l'écriture seule, Dieu seul, Jésus-Christ seul. Et qu'est-ce que j'ai encore? La grâce seule. C'est les colonnes, les fondements de la foi protestante qui est la foi biblique. Il fallait le rappeler simplement. Les pères de l'Église, ils avaient tous ce... C'est pour ça que si vous faites un saut entre la réforme et les pères de l'Église, on a exactement, c'est la même Église. Entre deux, il y a une parenthèse où il y a tout un pan de, par Constantin, Clovis et tout ça, ça a dévié parce que c'est devenu un mix avec l'État et il y a des syncrétismes qui sont apparus. Mais si on revient à la théologie de la foi, c'est la foi seule. Pour recevoir cette eau vive, il faut la foi seule. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les hommes et les femmes qui nous ont précédés et qui vont nous suivre font? Qui font que nous ne pouvons pas boire cette eau vive? C'est qu'ils mélangent. Alors moi j'aime bien les mélanges quand c'est du kir. Mais il y a certains mélanges qui sont pas aussi bons. Et les mélanges spirituels, c'est à bannir. C'est pour ça que les réformateurs ont dit « sola fide, sola la foi seule. » Et qu'est-ce qui est mauvais de mélanger avec la foi? Nos efforts, la raison, Jean-Claude, le mysticisme, quoi encore? Pardon? Humanisme. Il y en a un qui est très important, que tous les chrétiens ont tendance à utiliser, qui était le mal des Galates. C'est de la sorcellerie, je vous signale. C'est quoi, Hélène? C'est la loi. Il y en a qui ont déjà rencontré des chrétiens qui veulent aussi être conformes à la loi. Hein, des judaïsants. On en connaît. Judaïsants. Et à l'époque, il y en avait beaucoup. Et l'église de Jésus était persécutée par les judaïsants et les Galates. Et Paul va dire... au chapitre 2, qui vous a ensorcelé? Il utilise un mot de sorcellerie. Qui vous a ensorcelé? L'ennemi veut pas que je vous transmette le message, là. Pas spirituel. Qui vous a ensorcelé? Pardon? Vous voyez, Paul va jusqu'à la sorcellerie, ceux qui, reviennent à la loi. Parce que la loi est venue par Moïse. Et la grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais nous sommes censés encore plus que nos aînés l'accomplir. Alors, c'est ça le message de la grâce. La grâce fait que nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur que nous avons envie que cette loi que Dieu a établie, qui est bonne, nous puissions la vivre, mais non pas par nos propres forces, mais par la force en Dieu, par la foi seule. Et non pas par la foi avec la loi, ça c'est de la sorcellerie, la foi avec les sentiments, c'est du mysticisme, hein, aller dans une église, voir un saint, tout ça, oh là là, je suis comme lui, tout ça, vous voyez, c'est le mysticisme, tout ça, c'est les sentiments, ça palpite là-dedans et tout ça, mais c'est quoi, ça donne quoi? Vous voyez, ça c'est du mysticisme. Et imaginez que le mysticisme est rentré avec Platon. Donc, Platon était mystique. Et cette notion est rentrée déjà dans l'Église au départ, chez les Corinthiens. Chez les Corinthiens. Paul a combattu cela chez les Corinthiens. Paul a combattu la loi qui est rentrée avec les Galates. Donc vous avez toute l'explication dans les Galates. Et la raison, elle est rentrée par qui? Pardon? Non, avant Descartes. Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, qui à la Sorbonne, a écrit ce fondement où il voulait mélanger la philosophie d'Aristote avec la foi. Et depuis, on se bat. Je me rappelle, au GBU, quand on était avec Michel, au début, on a fait beaucoup d'ailleurs avec Roger, qui nous donne le bonjour. Et avec Roger, on a fait beaucoup de débats sur est-ce que la foi est compatible avec la raison? C'est un débat éternel. Mais il a commencé avec Thomas d'Aquin en particulier. Il a toujours existé. Mais là, il y a les fondements qui sont... Et c'est un mélange. Et tout le catholicisme est basé là-dessus, sur ce mélange entre foi et raison. On voudrait que la raison, elle confirme la foi. On voudrait que la foi ait la raison. Mais je vais vous dire une chose, il n'y a pas de débat possible. De toute façon, Dieu, il est la raison incarnée. Vous ne croyez pas que Dieu a une raison? S'il a créé le ciel, les étoiles, qu'il a fait toutes les lois, c'est de la raison ça. Hein? Sinon, ça fait longtemps qu'on ne vivrions plus. Donc Dieu est parfaitement raisonnable. Il est la raison. Et si nous sommes en communion avec lui, nous recevons sa raison. Nous n'avons pas besoin de chercher une raison humaniste, une logique. Parce que tout est basé sur le raisonnement de Hegel. Thèse, antithèse, synthèse. Et je connais quelqu'un qui s'appelle Philippe Jauret, qui dit thèse, antithèse. Foutaise. Mais c'est vrai. Si je dis thèse, antithèse, ça veut dire je prends une thèse et je dis le contraire. Et la vérité est au milieu. Donc je prends la vérité de Dieu, je dis l'inverse et la vérité est au milieu. Donc ça veut dire que j'ai déjà dévié. Donc voyez-vous, vous êtes là, vous êtes au milieu. Ensuite après, vous déviez, vous ne faites que dévier. C'est pour ça aujourd'hui, nous sommes en déviance totale. Et les Français, ils vivent de ça. Ils sont tellement déviés parce que ce fondement était posé thèse, antithèse. C'est Hegel qui l'a mis en fondement dans notre raisonnement et dans tout ce qui est enseigné dans nos universités. Donc, la foi seule. La réponse de l'homme tout entier par un engagement pour la vie à Jésus-Christ, reconnu comme sauveur, et suivi comme Seigneur. La foi, je vous rappelle, la définition de la foi, Hébreux 11, c'est la possession des choses qu'on espère. C'est une possession. Si nous avons la foi, si nous croyons dans la promesse de Dieu, nous le possédons. Amen. J'ai bien aimé le témoignage de Sonia. Quand elle a reçu qu'elle serait guérie, elle était guérie. Et John Wimber nous disait toujours, si vous priez pour quelqu'un, hein, toi tu es malade, tu viens pour prier. Quel est l'ingrédient pour qu'il soit guéri? C'est que l'un des deux doit avoir la foi. Ou lui ou moi. Vous voyez? Des fois c'est celui qui prie qui a la foi. Le problème c'est que si vous n'exercez pas la foi d'après, vous pouvez être guéri, vous ne savez pas comment ça marche. C'est arrivé à un grand prédicateur, vous connaissez Huggins, Kenneth Huggins. Vous connaissez, non? Il a été guéri à 18 ans dans un fauteuil roulant, il est sorti. Et toute sa vie, il a prêché la guérison, a créé un mouvement énorme aux États-Unis et aussi dans le monde entier. Il a dit qu'il était entouré de tout un tas de pasteurs qui prêchaient par les dons. Et vous, ils avaient des dons extraordinaires, ils priaient, les malades étaient guéris, tout ça. Et c'était formidable, ils ont vécu pendant 10 ans sur les dons. Et un jour, les dons sont arrêtés. Ça arrive ? Les dons sont arrêtés. Parce que les dons, c'est pas vous, c'est Dieu. Ok? Bon. Et les pasteurs, ils ont dit à Kenneth, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On prie, il se passe plus rien. Avant, on priait, il se passait, les gens étaient guéris, tout ça. Mais ils étaient affolés, quoi. Il a dit, mais vous priez par la foi. C'est quoi la foi? Ils savaient pas ce que c'était la foi. Ils étaient tellement habitués à prier par la guérison, mais ils sont tous morts. Attention, hein. Parce qu'ils ont eu le cancer, des choses comme ça, ils ne savaient pas prier par la foi. Lui, c'est le seul qui est resté, parce qu'il a dit, mais moi je prie pour la foi, parce qu'il est sorti de sa chaise roulante par la foi à 18 ans. Donc il savait ce que c'était la foi. Voyez-vous comme quoi c'est pernicieux. Ça a l'air de rien. Kenneth Hagin qui qui raconte ce témoignage, hein, dans un bouquin, je ne sais plus, un des bouquins qu'il a écrit. Donc, restons sur la foi. Parce que quand les dons s'arrêtent, la foi continue. Amen. Et nous avons besoin des dons pour avoir la foi. Nous avons la foi, voyez-vous. Thomas, il avait besoin de la vue pour croire. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui ne voient pas comme nous et qui croient. Amen. Donc notre héritage, c'est de croire les choses invisibles, la foi et la possession des choses qu'on espère, des choses qui sont marquées et qui sont dans la parole de Dieu. Je suis obligé de m'arrêter, on va prier. Seigneur, nous te louons, parce que Seigneur, tu nous as donné des choses excellentes, mais nous ne voulons pas les polluer avec des choses de ce monde. Nous voulons véritablement te laisser toute la place dans nos vies et nous te demandons de nous aider durant cette année à être délivrés de tous les subterfuges que les hommes ont pu mettre autour de nous et qui sont comme des joyaux qui brillent, mais derrière il n'y a rien. Seigneur, toi tu nous donnes des choses véritables. Ta parole nous enseigne à nous fonder sur ce que tu as dit et qui s'accomplit. Alors Seigneur, aide-nous à être de ceux qui dévore ta parole et qui la met en pratique pour que nous soyons purifiés aussi, que cette année, au travers de ce que tu veux nous enseigner, nous puissions être purifiés, être libérés, acquérir une véritable liberté en toi et ainsi te servir, être des serviteurs fidèles, Seigneur, auquel tu peux dire, entre dans la joie de ton maître, parce que ton service a été excellent. Seigneur, nous voudrions que tu puisses nous dire cela et nous te demandons cette aide au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.